Ce dont vous avez le plus besoin. Il y a presque 20 ans, j'ai demandé ma femme Melissa en mariage. J'ai conduit pendant 7 heures pour lui faire une surprise, et heureusement, elle a dit oui. Je souriais en rentrant, jusqu'à ce que les lumières à l'intérieur de ma voiture commencent à clignoter. Puis, finalement, j'ai commencé à perdre toute l'électricité. Ma voiture s'est alors arrêtée au milieu de nulle part. C'était à l'époque avant Uber et Google Maps. Mais j'ai pu appeler mon père, qui a trouvé un mécanicien local, qui est venu me rejoindre sur la route. Il a emmené ma voiture à son atelier. Après avoir tout vérifié, il a dit « Je pense que c'est l'alternateur ». Je ne pensais pas que c'était ça le problème. Je pensais qu'il me fallait une nouvelle batterie, mais je n'ai rien dit. Il a donc installé un nouvel alternateur et a essayé de démarrer la voiture, mais rien n'est arrivé. Je savais que ce n'était pas l'alternateur, me suis-je dit dans ma tête. Ça doit être la batterie. Mais il n'était pas convaincu. Peut-être que c'est vraiment l'alternateur, a-t-il dit. Je ne pensais pas que c'était le problème, mais je suis resté silencieux. Il est allé dans un magasin de pièces détachées et a acheté un nouvel alternateur. Il est revenu, a installé le nouvel alternateur, et voilà, la voiture a démarré. J'étais content d'être resté silencieux, parce qu'il avait raison. Je pensais avoir besoin d'une nouvelle batterie. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'un nouvel alternateur. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous pensiez avoir besoin d'une chose, mais en réalité, vous aviez encore plus besoin d'autre chose. Ce matin, je voudrais que nous regardions une histoire connue des évangiles. C'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissons bien. Mais il y a une tension dans cette histoire. Entre ce que nous pensons avoir besoin et ce dont nous avons réellement besoin. Une tension entre ce que nous pensons être le plus important et ce que Dieu considère comme étant le plus important. Alors, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Marc 2, versets 1 à 2. Lorsqu'il revint à Capernaum, après quelques jours, on apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de personnes s'assemblèrent, au point qu'il ne restait plus de place, même à devant la porte, et il leur annonçait la parole. À ce moment de l'évangile de Marc, Jésus prêchait et exerçait son ministère dans la région de la Galilée, et il semble qu'il ait fait de Capernaum son quartier général. Il est même dit au verset 1 que Jésus était à la maison. On ne pense pas souvent à Jésus à la maison. N'est-ce pas? Nous pensons habituellement à sa naissance dans une crèche ou au fait qu'il était toujours en déplacement. Mais ici, au verset 1, il est chez lui à Capernaum, et très vite, tout le monde le sait. Il est dit que beaucoup se réunirent là, et la maison était pleine. Elle était tellement remplie qu'il n'y avait plus de place pour personne, même pas devant la porte. Et que faisait Jésus? Qu'est-ce qui captivait l'attention de tous? Était-ce des lasers ou des drones? Était-ce de la fumée et des jeux de lumière? Était-ce l'installation de sièges confortables? Non, ce n'était rien de tout cela. C'était Jésus annonçant la parole à l'assemblée. J'aime être ici dans le nouveau sanctuaire. C'est particulièrement agréable d'avoir un espace pour se réunir un dimanche de shopping. Et j'aime réfléchir à des façons d'améliorer cet espace. Mais la réalité, c'est que ce dont on a le plus besoin, c'est de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous voyons au verset 2 à quel point les gens avaient faim de cela, et c'est tout aussi vrai aujourd'hui. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors tout le monde était là. La maison était pleine. Personne d'autre ne pouvait entrer, même pas à la porte. Mais cela n'a pas pu arrêter ceux qui étaient déterminés à rencontrer Jésus ce jour-là. 3. Ils vinrent lui amener un paralytique porté par 4 hommes. 4. Et comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de Jésus. Et l'ayant ouvert, ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché. Ainsi un homme paralysé tente d'entrer dans la maison pour voir Jésus. Il ne peut pas marcher, mais ses quatre amis sont là pour le porter. Mais il y a un problème. La maison est pleine. Maintenant, certaines personnes auraient simplement abandonné. Certaines auraient pu dire « Attendons simplement que Jésus sorte plus tard ». Mais ses quatre amis étaient déterminés. La maison pleine ne les arrêterait pas. Ils étaient résolus à amener leur ami à Jésus. Alors, ils font preuve de créativité. À l'époque, une maison typique en Palestine comportait une pièce avec deux étages. Au-dessus du deuxième étage se trouvait le toit. Et pour accéder à cette zone, il fallait monter les escaliers situés à l'extérieur de la maison. Ainsi, ces hommes montèrent les escaliers, arrivèrent sur le toit et y découpèrent une ouverture afin de pouvoir descendre leur ami. Typiquement, ces toits étaient maintenus ensemble avec de l'argile, ainsi que des branches et des bâtons. Donc vous pouvez imaginer la terre qui tombait sur les gens à l'intérieur de la maison, tandis que ces quatre hommes creusaient le trou. Mais ces hommes ne s'en souciaient pas. Ils voulaient amener leur ami à Jésus. Ils étaient prêts à se salir les mains. Cela m'amène à ma première observation tirée du texte. Premièrement, amener quelqu'un à Jésus n'est pas toujours facile. Dans cette histoire, il y avait de multiples obstacles sur leur chemin. Premièrement, leur ami était paralysé. Autant que je sache, il n'y avait pas de fauteuil roulant à l'époque. Deuxièmement, la maison était pleine. Il n'y avait plus de siège et on ne pouvait pas entrer. Troisième obstacle, le toit. Ils ont dû se salir les mains pour ouvrir le toit. Il y a eu beaucoup de moments où ils auraient pu abandonner. Il y a eu beaucoup de moments où ils auraient pu renoncer. Ce n'était pas facile. Mais comme nous le verrons plus tard dans l'histoire, cela en valait la peine. Pour ces quatre hommes, il était urgent d'amener leur ami à Jésus. Les obstacles ne les ont pas arrêtés. La foule ne les a pas arrêtés. Le toit ne les a pas arrêtés. Ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour amener leur ami à Jésus. Ils ont surmonté les obstacles. Ils se sont salis les mains. Qu'est-ce qui a poussé ces quatre hommes? Qu'est-ce qui les a incités à amener leur ami à Jésus? Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il est dit que Jésus voit leur foi. C'est la foi des quatre amis, et probablement celle de l'homme paralysé. Jésus voit leur foi en action. Ils croyaient que Jésus pouvait guérir leur ami, alors ils l'ont amené à Jésus. Ils ont surmonté les obstacles. Ils se sont salis les mains, et Jésus l'a remarqué. Nous voyons ici le lien entre la foi et l'amour. Notre foi se manifeste par l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. L'amour est le fruit de l'esprit. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ces quatre hommes aimaient tellement leur ami, et ils croyaient tellement que Jésus pouvait le guérir, qu'ils ont tout fait pour amener leur ami à Christ. Application très simple. Est-ce que tu amènes tes amis à Jésus? Dieu t'a donné des relations. Dieu t'a donné de l'influence. Comment profites-tu des opportunités que Dieu t'a données? Parfois, nous pouvons compliquer les choses et nous inquiéter de ce qu'ils pourraient dire, ou nous imaginons déjà qu'ils diront non. Mais dans cette histoire, c'est si simple. Nous devons aller chercher nos amis, les amener à Jésus et faire confiance qu'il fera le reste. Quelle est la prochaine étape pour toi et tes amis? C'est peut-être inviter cet ami à l'église. C'est peut-être partager ton témoignage avec cet ami. C'est peut-être demander à un ami s'il voudrait lire un évangile avec toi. Les prochaines étapes possibles sont infinies. La question est, vas-tu avancer par la foi et franchir cette prochaine étape. Il y aura probablement des obstacles. Il y en a toujours, comme dans cette histoire. Amener quelqu'un à Jésus n'est pas toujours facile. Mais ton rôle, c'est simplement de les conduire à Jésus et de le laisser faire le reste. Laisse-moi relire le verset 5. 5. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, Jésus voit leur foi. Jésus regarde leur ami paralysé et dit, « Mon enfant, tes jambes sont guéries. » C'est ce qu'il a dit, non? Il a réparé ses jambes, non? C'était le plus grand besoin de cet homme, n'est-ce pas? Il était paralysé. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, « Mon enfant, tes jambes sont guéries. » Au lieu de cela, Jésus a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Attends une minute. Les péchés? Et ses jambes alors? Les péchés? Le principal problème, c'était ses jambes, non? Pourquoi Jésus parle-t-il de ses péchés? Des jambes qui fonctionnent, ne sont-elles pas le plus grand besoin de cet homme? Pourquoi Jésus parle-t-il du pardon de ses péchés? Le plus gros problème de cet homme est physique, pas spirituel. La raison pour laquelle Jésus a d'abord répondu à ses besoins spirituels ce jour-là, c'est parce que tu t'en rendes compte ou non, le pardon de nos péchés est ce dont nous avons tous le plus besoin. Cela peut te surprendre, et cela a sans doute surpris les quatre amis qui étaient là ce jour-là. Mais Jésus répondait au plus grand besoin de l'homme paralysé à ce moment-là, le pardon de ses péchés. Un auteur a dit, « Le pardon est le plus grand miracle que Jésus accomplit. Il répond au besoin le plus profond. Il coûte le plus grand prix. Et il apporte la plus grande bénédiction et les résultats les plus durables. » La Bible dit que le salaire ou la conséquence de notre péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, et en croyant en lui, tu peux être sauvé, non pas à cause de ce que tu as fait, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus. Ses amis sont venus à Jésus ce jour-là pour voir leur ami guéri. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, j'en suis sûr, c'était de voir une guérison spirituelle se produire. Cet homme et ses amis n'étaient pas venus à Jésus, ce jour-là, pour le pardon des péchés. Ils étaient là pour que ses jambes soient guéries. Mais Jésus savait que cet homme avait un besoin plus profond. Un besoin qu'on ne peut pas voir à la radiographie. Cela m'amène à ma deuxième observation tirée du texte. Deuxièmement, Dieu sait ce dont tu as le plus besoin. Tu crois peut-être savoir ce dont tu as le plus besoin, mais Dieu, lui, c'est vraiment ce dont tu as le plus besoin. Et parfois, cela peut être quelque chose à quoi tu ne t'attends pas. Parfois, nous pensons que notre plus grand besoin, c'est un meilleur emploi, ou un emploi tout court, ou de trouver une relation, ou d'obtenir la guérison physique dont tu as besoin, ou d'obtenir plus d'argent. Peut-être crois-tu que ces choses sont ce dont tu as le plus besoin. Mais Dieu sait ce dont tu as réellement le plus besoin. Un autre auteur a dit, « Souvent, nous pensons savoir quel est notre plus grand besoin, mais en réalité, nous ne faisons que nous concentrer sur nos circonstances. En vérité, le problème auquel tu fais face aujourd'hui, ce n'est pas ton conjoint, tes enfants ou tes parents. Ce n'est pas ton emploi, ton patron ou tes collègues. Ce n'est pas ton manque de ressources, ton manque de temps ou tes revenus insuffisants. Tout comme ce jeune homme, ton plus grand besoin, c'est le Messie lui-même. Jésus voyait tout clairement, bien plus clairement que nous. Dieu voit toujours la situation dans son ensemble. Il est difficile pour nous de voir la situation dans son ensemble lorsque nous ne pouvons pas payer nos factures, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous souffrons. Et il semble parfois que Dieu ne répond pas à nos prières et qu'il ne s'occupe pas de nos besoins. Parce que tout ce que nous voyons ce sont nos circonstances. Et si nos circonstances ne changent pas, alors que fait Dieu? Pourquoi pardonne-t-il les péchés de cet homme, alors qu'il pourrait guérir ses jambes? C'est pour cela qu'ils l'ont amené à Jésus, n'est-ce pas? Mais Dieu était en train d'accomplir quelque chose de plus profond dans la vie de cet homme et dans la vie de ceux qui observaient ce jour-là. Et lorsque tu as l'impression qu'il ne répond pas à ton plus grand besoin, c'est justement le moment de faire confiance au Seigneur, qui voit un besoin plus profond qu'il veut guérir en toi. Un besoin peut-être que tu ne peux pas voir en ce moment, ou peut-être que tu ne le verras pas avant un certain temps. Peut-être que, comme le paralytique, tu penses que ton plus grand problème est physique, mais en réalité, Dieu veut te guérir spirituellement. Il veut que tu pardonnes à cette personne qui t'a fait du mal, ou peut-être veut-il que tu demandes pardon à cette personne. Il veut que tu abandonnes ce comportement destructeur dans ta vie, que ce soit la convoitise, la dépendance ou les commérages. Il veut que tu viennes à lui avec tes fardeaux, tes angoisses et tes insécurités. Il veut que tu sois satisfait de ce qu'il t'a donné maintenant, en ce moment. Parfois, il est plus facile de venir à Dieu avec des jambes cassées, une infection ou un rhume, que de venir à Dieu avec nos projets, nos espoirs et nos rêves. Lui confier ces choses et dire « Je te fais confiance, Dieu. Tu sais mieux que moi de quoi j'ai besoin en ce moment. Ne sois pas tellement concentré sur le physique maintenant que tu passes à côté des leçons spirituelles que Dieu essaie de t'enseigner. Parce que Dieu connaît ton plus grand besoin, mieux que nous. Ainsi, Jésus pardonne les péchés de cet homme, mais nous voyons au verset 6 qu'il y a des personnes mécontentes dans la maison. Or, quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Dans la maison se trouvaient des scribes. Qui étaient les scribes? Les scribes étaient des hommes instruits en Israël, dont le principal travail était d'étudier la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. L'un de leurs rôles était de préserver les Écritures, de s'assurer qu'elles étaient correctement recopiées. Mais, tout comme les pharisiens, dans le Nouveau Testament nous voyons que, même s'ils étaient des experts de la loi, même des enseignants de la loi n'était pas dans leur cœur, seulement dans leur tête. Ils n'étaient pas pleins de grâce, et Jésus les qualifiera plus tard d'hypocrites. Mais les voici, dans la maison, venus pour observer Jésus. Nous savons que la maison était pleine, mais nous savons aussi, d'après le verset 6, que les scribes avaient une place où s'asseoir. Peut-être était-ce à l'avant, à des places d'honneur. Et même si nous pourrions lire le verset 5 et dire « Jésus, qu'en est-il de ses jambes ?» Les scribes avaient d'autres questions dans leur cœur. Il n'est pas dit qu'ils ont exprimé ces choses à voix haute, mais ils réfléchissaient à ces questions. Et leur pensée était « Comment cet homme peut-il dire cela ? Il blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Leur deuxième pensée était assez sérieuse. À cette époque, la peine pour blasphème était la mort. Et dans leur esprit, Jésus venait de commettre un blasphème en prétendant être capable de pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Leur troisième pensée était en réalité correcte. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que Jésus était Dieu fait chair. Donc Jésus ne blasphémait pas, car Jésus était et est Dieu. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous voyons cela ici au verset 8. Encore une fois, ce scribe n'avait encore rien dit, mais ils avaient des pensées. Et Jésus, se révélant être Dieu, lit leurs pensées et leur en parle. Il dit, « Pourquoi pensez-vous de telles choses? Pourquoi passez-vous à côté de ce qui est réellement en train de se passer ?» Jésus accomplissait des choses extraordinaires ce jour-là. mais il y eut deux réactions différentes. Le cœur des quatre hommes qui portaient le paralytique était rempli de foi. Mais le cœur des scribes était critique. Leur cœur était rempli d'incrédulité. Leur cœur était rempli de doute. Alors laissez-moi vous poser la question ce matin. Êtes-vous une personne qui célèbre l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie des autres? Ou avez-vous tendance à critiquer les autres? Durant mes études au séminaire, je devais suivre des cours de prédication. C'était essentiellement un type d'atelier. On nous attribuait certains passages bibliques sur lesquels prêcher, puis nous préparions un sermon que nous prêchions ensuite en classe. Ensuite, il y avait un moment où les étudiants et le professeur vous donnaient leur retour. L'idée était bonne, et pour moi, les retours étaient utiles. Mais il y eut une conséquence involontaire qui m'est arrivée. Après le cours, chaque fois que je visitais une église, j'écoutais le sermon de façon critique. Je me disais, « Ah, l'introduction était correcte, mais les points du sermon étaient un peu faibles. » Et je ne pouvais pas m'empêcher non plus de juger la musique. J'ai aimé le premier chant, mais je n'ai pas trop aimé les paroles du dernier chant. J'ai commencé à évaluer de façon critique chaque aspect du culte. Les retours ne sont pas mauvais. La critique constructive peut être utile. Le problème, c'était moi. J'étais tellement occupé à tout évaluer dans mon esprit que mon cœur n'était plus impliqué. Je passais à côté de ce que Dieu était en train de faire. Le tournant pour moi a eu lieu quand je suis retourné dans mon église d'enfance, celle où j'avais grandi. J'y étais un dimanche, et bien sûr, j'ai mentalement dressé une liste de choses qui, selon moi, pourraient être améliorées ou corrigées. J'ai demandé à rencontrer mon pasteur, et il a accepté avec gentillesse. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais sur le point d'énumérer ma longue liste d'évaluations, quand j'ai senti ce que je crois être le Saint-Esprit me dire, « Clint, ne fais pas ça. » Alors je ne l'ai pas fait, et à ce même instant, j'ai compris que je ne voulais plus être un critique. Je voulais être quelqu'un qui célèbre ce que Dieu accomplit. J'ai donc prié, « Seigneur, chaque fois que je visite une église, aide-moi à voir les bonnes choses que tu fais. Ne me laisse pas être un critique. Fais de moi une personne qui célèbre ce que tu fais. » Laissez-moi vous poser la question ce matin. Êtes-vous, comme les quatre hommes, prêts à tenter et à accomplir de grandes choses pour Dieu? Ou bien, êtes-vous comme les scribes, prêts à critiquer les autres? Dieu voit ce qui est dans votre cœur. Quand il regarde dans votre cœur, oh, qu'il y voit la foi et l'amour, et qu'il ne regarde pas dans votre cœur pour dire, comme il l'a fait au scribe ce jour-là, « Pourquoi me questionnez-vous toujours ?» 9. Lequel est le plus facile, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jésus leur demande, « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ?» Maintenant, la réponse est évidente, il est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, parce qu'il n'y a aucun moyen réel pour les scribes de le vérifier. C'est un acte spirituel. Ce qui est plus difficile à dire, c'est « lève-toi et marche », parce que les gens peuvent facilement le vérifier. C'est un acte physique. Si l'homme paralysé ne se levait pas et ne marchait pas, alors Jésus serait prouvé être un imposteur. Mais la vérité est en réalité l'opposé. Bien qu'il soit plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés », seul Dieu peut réellement pardonner les péchés. Donc, bien que ce soit plus facile à dire, c'est en fait quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Mais bien sûr, Jésus peut le faire, parce qu'il est Dieu fait chair. Il a donc essentiellement piégé les scribes. Comment peuvent-ils répondre à cette question? Que peuvent-ils faire? Eh bien, avant qu'ils aient la chance de répondre, Jésus va résoudre la question. 10 à 12. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Il dit au paralytique. 11. Je te le dis. Lève-toi, prends ton lit, et rentre chez toi. 12. Et aussitôt il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus dit maintenant la chose la plus difficile à dire, « Lève-toi et marche. » Mais Jésus précise que s'il dit cela, c'est afin que les gens sachent qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus n'a rien à prouver, mais il montre aux scribes et à la foule sa puissance divine. Encore une fois, Jésus fait ici une déclaration. Il aurait très facilement pu simplement guérir l'homme paralysé dès que ses amis l'ont amené à lui. Mais Jésus voulait que ces personnes sachent qu'il a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. Il est Dieu fait chair. Non seulement il apporte la guérison physique, mais il apporte aussi la guérison spirituelle. C'est pourquoi Jésus utilise le titre qu'il emploie, le Fils de l'homme. C'est une référence à une prophétie du livre de Daniel dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Et lorsque Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme, il est en train de dire « Voici, je suis là ». Et ensuite nous voyons la puissance de Jésus au verset 12. Il dit à l'homme paralysé de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et l'homme se lève immédiatement, prend son lit et rentre chez lui. Et les foules furent émerveillées. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Mon dernier point tiré du texte, troisième point. Dieu se soucie aussi de vos circonstances. Mon second point précédemment était, Dieu sait ce dont vous avez le plus besoin. Et j'ai dit que bien souvent, nous ne pouvons voir que nos circonstances, et non pas percevoir la vue d'ensemble que Dieu voit. Et c'est vrai. Mais nous voyons aussi ici, que Dieu se soucie également de nos circonstances. Jésus a pris soin du plus grand besoin de cet homme, son besoin spirituel, le pardon de ses péchés. Mais nous voyons ici que Jésus a aussi pris soin de son autre besoin. En d'autres termes, Jésus ne s'est pas seulement soucié des besoins spirituels de cet homme, il s'est aussi soucié de ses besoins physiques. Jésus se soucie de tout votre être, corps et âme. Nous le savons parce que Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il a aussi été ému de compassion quand les foules n'avaient rien à manger. Jésus nous a donné le serment sur la montagne, mais il a aussi guéri les malades. Oui, Dieu voit la vue d'ensemble, il a un plan pour votre vie, mais il se soucie aussi de ce que vous traversez en ce moment. L'incertitude au travail, vos examens à venir, le problème qui se passe dans votre famille ou tout autre défi auquel vous faites face aujourd'hui. Permettez-moi de le dire ainsi, vos problèmes ne sont pas trop grands pour Dieu et nos problèmes ne sont pas trop petits pour Dieu. La chose que vous traversez aujourd'hui peut sembler impossible, elle peut sembler trop difficile, mais Dieu peut vous faire passer à travers cela. Dieu peut la résoudre. Rien n'est trop grand pour lui, et rien n'est trop petit pour lui. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Marc chapitre 2 est une image littérale de la maison de Jésus. Tous sont les bienvenus. Et si vous ne pouvez pas entrer par la porte, alors vous pouvez passer par le toit. Il invite tout le monde. Mais lorsque vous venez à Jésus, venez à lui avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Parce que vous pensez peut-être savoir de quoi vous avez besoin, mais Dieu sait ce dont vous avez le plus besoin. Il vous invite à entrer dans sa maison, et il nous envoie aussi, par sa puissance, soulever et amener d'autres personnes à lui. Il y a un monde perdu et mourant là-dehors. Ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin du pardon des péchés. Allons les trouver. Amenons-les à Jésus. Il y aura des obstacles. Il se peut que vous deviez vous salir les mains. Ce ne sera pas toujours facile. Mais le Seigneur est à vos côtés. Quand je dis « Où est le Seigneur ?», pouvez-vous répondre « À mes côtés ?» Où est le Seigneur ? À mes côtés. Où est le Seigneur? À mes côtés. Où est le Seigneur? À mes côtés. Alors vous n'avez rien à craindre. Comme le célèbre missionnaire Hudson Taylor l'a dit un jour, attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. Ainsi, lorsque Dieu agit, nous pouvons reculer et être émerveillés. Nous pouvons lui rendre la gloire et dire avec la foule ce jour-là, « Je n'ai jamais rien vu de pareil ».